bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième conférence des rencontres de la santé mentale du Club de la presse Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. Le thème de ce soir est donc le traitement médiatique du suicide. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Héloïse Bajou, journaliste santé et société, ancienne professionnelle de santé, chargée de déploiement du programme Papagéno en Nouvelle-Aquitaine. Héloïse, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et nous avons également Dr Nicolas Leca, psychiatre, chef de clinique assistant à l'UNIVA, le pôle universitaire de psychiatrie adulte de Charles Perrin, qui intervient notamment avec le programme Papagéno sur la sensibilisation des étudiants en journalisme de l'IJBA. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comme je l'ai indiqué, le thème de ce soir sera le traitement médiatique du suicide. Avant de bombarder mes intervenants de questions, je me permets de faire un petit contexte avec quelques chiffres. Tout d'abord, des chiffres de l'Observatoire national du suicide. Donc, je cite directement leur site. Hein. Le suicide a causé le décès de 9300 personnes en 2016 en France métropolitaine. À ce chiffre s'ajoutent environ 200 000 tentatives de suicide donnant lieu à un contact avec le système de soins. Par an, la France fait partie des pays européens les plus touchés par ce fléau. Et un chiffre de l'OMS, un décès sur 100, donc dans le monde, est un décès par suicide. Chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, le suicide est la quatrième cause de décès après les accidents de la route, la tuberculose et la violence interpersonnelle. Avant aussi de rentrer dans notre conférence, je me permets de rappeler le numéro national de prévention du suicide, le 3114. C'est un service gratuit. Ce service propose une écoute professionnelle et confidentielle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des infirmiers et psychologues spécifiquement formés. Si vous en ressentez le besoin ou si vous connaissez un proche dans le besoin, n'hésitez pas à contacter ce numéro. Voilà, donc ça fait une grande introduction. J'ai pu évoquer rapidement dans la présentation des intervenants le programme Papagéno. On va beaucoup en parler ce soir. Héloïse, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le programme Papagéno?
Alors, le programme Papagéno, c'est un programme national qui a été développé par la Fédération de recherche en psychiatrie lilloise autour d'études dont on va parler ultérieurement, qui ont montré qu'en fonction de la manière dont étaient traités les suicides dans les médias, ils pouvaient induire un effet de reproduction, d'imitation chez certaines populations vulnérables. À partir de ce constat, une stratégie d'action innovante à destination des journalistes a été déployée et en train de se déployer en France pour venir sensibiliser les rédacteurs, les rédactions sur la manière de traiter du suicide dans les médias. Donc on a vraiment ce pôle-là d'activité autour des rédactions, la sensibilisation, la formation aussi des étudiants en journalisme dans les écoles de journalisme et en parallèle la formation des professionnels de santé, des professionnels de la prévention du suicide à l'intervention dans les médias, parce qu'on sait bien que c'est de la rencontre de ces professionnels de terrain et des professionnels de l'information que pourront découler les bonnes pratiques et la mise en réseau pour pouvoir créer des synergies qui permettent de traiter efficacement avec justesse et professionnalisme de ces sujets-là. Donc voilà, on développe ces axes-là et en parallèle, un troisième axe au sein du programme Papagéno qui est l'axe post-vention, donc des interventions, des conseils, notamment en termes de communication interne quand il y a un passage à l'acte qui survient dans une institution où il y a potentiellement un risque de contagion au sein de l'institution.
Pour les personnes qui se sont déjà un petit peu intéressées à cette thématique du traitement médiatique du suicide, ont déjà pu être confrontées à ce qui s'appelle l'effet Werther ou l'effet Papagéno. De quoi on parle ? Donc Nicolas ou Héloïse, comme vous le souhaitez.
Je veux bien dire quelques mots, je serais peut-être complété effectivement par Héloïse. L'effet Werther est un effet qui est assez connu, hein. C'était les souffrances du jeune Werther, le roman de Goethe, et à l'époque, ils avaient constaté que ce roman, publié en Allemagne, avait induit une diffusion, une contagion suicidaire avec un mode opératoire qui était très similaire, et donc les enquêteurs voyaient une certaine similarité dans le mode opératoire suicidaire, et donc ils avaient déjà identifié une sorte de contagiosité suicidaire, et ils avaient du coup fait une censure de ce livre, ce qui était assez exceptionnel, et moi je trouve ça remarquable de noter qu'ils avaient pu noter une différence épidémiologique en fait du niveau de suicide à cause de la publication de ce livre dans les années 1750, je ne sais plus par là. Et donc voilà, l'effet Werther, il est né de ça. Et donc en fait, l'idée, c'est que la communication, des informations sur le suicide, certains détails, peuvent entraîner une augmentation du risque de suicide pour la population autour. Et donc il y a deux modes de contagiosité suicidaire qui sont décrites. Il y a un mode vertical, on s'identifie à une star, quelqu'un qui est plus au-dessus de nous d'une certaine manière. je ne sais pas moi, Kurt Cobain, des choses comme ça, et une identification horizontale ou un lambda qui nous ressemble aussi d'une certaine manière, aussi peu à l'occasion de la diffusion des informations sur son suicide, peut nous affecter et augmenter la probabilité que nous-mêmes nous soyons suicidaires. Donc ça, c'est les deux effets, vertical et horizontal de l'effet Werther. Il y a deux modes de contagiosité. Et puis, sur l'effet Papageno, ça, c'est plus une référence à la flûte enchantée, donc une œuvre de Mozart, où Papageno a perdu sa Papagena, vous savez, c'était cette histoire. Et donc, lui, il est perdu et une information lui est délivrée grâce à trois petits elfes, des lutins, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui, grâce à l'information, vont lui permettre de retrouver sa Papagena. Et lui, il était dans un scénario où, n'ayant plus sa Papagena, bah, il allait mourir, en fait, et de se suicider. Et donc, grâce à l'information, il a pu sortir de cet emballement suicidaire. Et donc, du coup, l'information lui a sauvé la vie. Et donc, voilà, il y a deux effets qui sont un peu en symétrique sur le risque suicidaire.
Donc, ce que racontent un petit peu ces effets, en tout cas, quand ils ont été révélés, c'est qu'en fonction des pratiques qu'on utilise, on peut avoir un effet néfaste comme un effet positif, que ce soit sur le risque suicidaire ou la prévention.
Et tout à fait, c'est ça. C'est qu'il y a un risque d'augmenter le suicide chez les autres si on dit certaines choses, et aussi une possibilité de diminuer le risque suicidaire si on dit d'autres choses. Et donc tout l'enjeu sur le plan médiatique, c'est de savoir trouver l'équilibre, et d'une manière générale aussi continuer à vendre sans être non plus pro-suicide. C'est ça, je pense, la plus grande difficulté pour les professionnels de la communication.
Louis, chose.
Oui, il y a de nombreuses études qui ont été menées, notamment l'étude Princeps de 1974, qui a montré que, en fonction donc de la manière dont était traité un suicide dans les médias, l'étude Princeps, elle avait été portée sur le New York Times et sur l'étude des Unes notamment. Et ils avaient observé le nombre de suicides, ils l'avaient comparé aux années normales en cas de suicide d'une personnalité notamment. Et ça a vraiment été montré. Donc ça, c'est vraiment l'effet Werther, et en parallèle, c'est pas deux effets antagonistes qui s'annulent. L'effet Papageno, lui, est en train d'être mesuré. On le mesure notamment autour d'études qui incluent les numéros de recours aux services d'aide, que ce soit service de soins, service d'urgence, les lignes d'écoute, et maintenant qu'on a la ligne nationale de prévention. Et alors, à des plus faibles échelles, mais on est en train de montrer vraiment que, en incluant ces numéros ressources notamment, et il y a plein d'autres recommandations en fin d'article, on favorise un sur-recours à ces lignes d'urgence, à ces numéros ressources, comparé à ce qu'on a comme niveau de recours avant l'apparition d'articles. Donc on est vraiment sur deux effets qui viennent, qui travaillent sur deux aspects différents, mais qui viennent un peu s'auto-réguler.
Donc on va reparler un petit peu justement de ces pratiques, et notamment essayer de vous guider peut-être vers de meilleures pratiques si vous êtes amené à traiter ces sujets. Mais avant, j'aimerais un petit peu démonter quelques idées reçues sur le suicide. Et je vous pose donc cette question: quelles sont, selon vous, les plus grandes idées reçues sur le suicide? Donc j'ai peut-être quelques exemples si vous n'en avez pas en tête.
Ah bah, il y en a des classiques, c'est une histoire de volonté. Le concept de suicide philosophique qui est volontiers réfuté par les études scientifiques. On ne meurt pas par volonté, on meurt par maladie finalement. C'est d'ailleurs un trouble psychiatrique à part entière, en tout cas à l'étude. Et moi je pense que ça s'en est un effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée reçue?
Oh, il y en a plein.
Dans le tas, justement, par rapport au fait que ce soit une pathologie, j'ai repéré sur le site Stop Suicide, on ne peut pas guérir l'envie de mourir, en idée reçue.
Ouais, c'est amusant ça.
Et
c'est
il y en a deux ça. En une. Ouais. Et en plus, il y en a deux en une, puisque ça parle de l'envie de mourir, c'est ça exactement. On n'a pas envie de mourir quand on est en état de crise suicidaire. Je pense que ça, c'est déjà la première chose. La question du suicide comme libre choix, ça, c'est une des plus grosses idées reçues, il me semble. Le docteur Leca me contredit.
Oui, tout à fait. J'aimerais citer à cet effet-là une étude qui parlait des survivants de gens qui ont fait des tentatives de suicide avec une intentionnalité létale particulièrement élevée. Par exemple, des gens qui sautent de pont, je sais pas, de hauteur hauteur de 200 mètres, des choses comme ça, où on se dit que la probabilité de survie est quand même très faible, et pourtant il y en a qui survivent, et cette survie là en fait on a pu étudier en fait ce que se disaient les gens notamment, et ils disaient alors qu'ils ont sauté, alors que c'était évident qu'ils voulaient mourir à 100%, et en fait non, pendant le saut ils se disaient ah merde, quelle connerie. Et donc en fait il y a en permanence cette ambivalence suicidaire qu'il y a chez les gens qui ont des idées suicidaires. On peut le présenter aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire que face à un certain nombre de facteurs d'adversité et selon sa vulnérabilité propre individuelle, on peut se retrouver à avoir de moins en moins d'issues possibles, et finalement le cerveau produit naturellement cette espèce d'illusion qui est que le suicide peut être une solution, et à force d'épuisement des solutions alternatives, on n'a plus en face de nous que cette pseudo-solution, avec l'idée que finalement on est enfermé dans un scénario suicidaire, on ne trouve pas d'autre solution, mais toujours avec cette ambivalence de non, en fait j'ai pas envie, j'aimerais juste que ça s'arrête, ma souffrance s'arrête, c'est pas pareil. Et effectivement on peut en guérir, il suffit de par exemple quand on hospitalise les gens dans le cadre d'une crise suicidaire, et les idées suicidaires peuvent disparaître peut-être dans l'heure qui suit l'hospitalisation. C'est pas un traitement universel, mais c'est une façon de faire disparaître les idées suicidaires et l'envahissement suicidaire.
On a Ariane donc qui nous dit sur le chat qu'on n'a pas très bien entendu la dernière question, donc la question portée sur les idées reçues sur le suicide. Et Sevan nous demande, est-ce qu'au final les médias ont le pouvoir, je ne sais pas trop comment formuler cela, pardon, de faire baisser ou augmenter le nombre de suicides? Si on prend la définition de Durkheim, le suicide est un fait social avec des chiffres assez similaires chaque année, mais est-ce que cette vision est dépassée selon vous, ou alors on parle de variations très légères en fonction du traitement médiatique?
Alors, moi, je pense la question de est-ce que les médias ont la possibilité de faire baisser le suicide comme phénomène social, je ne sais pas. Je pense que la question n'est pas là. En fait, il me semble que la question est quelle est notre part de responsabilité journalistique dans le fait de ne pas la faire augmenter. Il y a ce qui est de l'ordre de l'accès du public à l'information, de quelles sont les ressources accessibles pour les personnes qui en ont besoin, ça c'est une autre question, et il resterait à pouvoir mesurer quelle est la part de la population qui n'a pas accès à cette information, quel est le rôle des médias dans l'accès de la population à cette information-là, mais je pense que la question, et en tout cas la question qu'on se pose au programme Papageno, c'est surtout comment est-ce que les journalistes font pour ne pas avoir un effet nocif. Et potentiellement, sachant que l'effet pervers existe, même en ayant des pratiques les plus respectueuses et responsables possibles, essayer de contrebalancer en ayant un effet de promotion de la santé, un effet de prévention, et en mettant en avant ces ressources-là. Il me semble que il y a un pas de côté à faire autour de cette question-là, notamment quand on est professionnel des médias.
Peut-être en complément, un ordre de grandeur quand même du traitement statistique donné sur les chiffres, c'est on parle de quelques dizaines, quelques centaines de morts par le traitement médiatique d'un suicide. L'augmentation du taux de suicide en population générale qui est secondaire à l'occasion, donc ce sont des corrélations, c'est pas causalité, c'est toujours très compliqué la causalité en médecine, mais en tout cas l'idée c'est que a posteriori, après le traitement médiatique d'un suicide avec beaucoup d'effets verteurs, on peut arriver jusqu'à une centaine de morts. Voilà. Mais sans que ce soit avec un lien direct, bien sûr. C'est pas le traitement médiatique qui donne les morts. C'est plus compliqué.
Sevan nous dit merci pour vos précisions et merci pour vos questions. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois dans le chat à intervenir. On va parler un petit peu des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. Et avant, en introduction, je voulais. Alors, j'ai repéré un fait d'actualité qui a été publié il y a un ou deux jours. Traité par différents médias, et j'ai constaté des traitements médiatiques très différents. Donc, je vous lis en fait directement la titraille et l'accroche. Donc, d'abord un titre de West France. Mort de Gabi Petitot, les circonstances de la mort de son compagnon dévoilées. Le chapeau. Nouveau rebondissement dans l'affaire du décès de la jeune youtubeuse. Ce mercredi 23 novembre, l'avocat de la famille de Brian Landry, qui avait disparu après le décès de sa compagne, a appris que le jeune homme avait mis fin à ses jours. Donc, ça, c'est West France. Même affaire. Traité par Midi Libre, meurtre de Gabi Petitot, son petit ami Brian Landry s'est suicidé d'une balle dans la tête. Chapeau, selon les résultats de l'autopsie dévoilée par l'avocat de sa famille à CNN, il s'est tiré une balle dans la tête. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Où sont les bonnes pratiques? Où sont les mauvaises pratiques? Et après, on pourra faire une liste peut-être plus générale, mais déjà sur ces titrailles, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va?
Ah bah merci pour ces deux exemples du traitement médiatique du même sujet par deux rédactions différentes, où voilà, on voit très très bien hein, quels sont les éléments problématiques. Ça fait ressortir à quel point l'utilisation du mot suicide dans le titre, la mise en avant du mode opératoire dans le titre ou même dans le chapeau hein, sont particulièrement problématiques. Alors pourquoi? Je pense que c'est important de rappeler que dans un moment où une personne est en grande souffrance, que on vient de le dire, elle a épuisé toutes ses solutions et que elle cherche juste un moyen de mettre fin à ses souffrances, on lui met en plein visage, sous les yeux, en direct, un mode opératoire auquel elle n'aurait peut-être pas pensé avant, en fait. Et c'est vraiment ça qui est problématique dans le fait de mettre le mode opératoire dans la titraille. On sait tous hein, que notre rôle, c'est d'informer en tant que journaliste et qu'il y a certains aspects qui peuvent être importants. Des aspects d'information comme un mode opératoire, voilà, ça peut être important. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on hiérarchise l'information, comment est-ce qu'on mesure le risque et quelles responsabilités on prend. Mettre le mode opératoire dans un corps d'article, personnellement, je vois pas où est le problème. Mais au moins, il n'est pas jeté au visage des lecteurs comme ça, et notamment des lecteurs vulnérables. Après, le traitement qui en est fait dans l'autre, dans le premier, alors, le premier article que tu nous avais lu, voilà, moi me paraît très bien. On a les mêmes informations. On voit juste vraiment que c'est une question de hiérarchisation de l'info qui joue. Il n'y a pas suicide dans le titre, mais on comprend quand même que voilà, il y a ni même dans le chapeau, mais on comprend quand même que la personne a mis fin à ses jours. Enfin, voilà, il y a un choix de vocabulaire, une hiérarchisation de l'info qui me semble moi très bien faite, très pertinente.
Alors justement, est-ce que le mot suicide dans le titre ou dans le chapeau, c'est quelque chose qu'il faut éviter ou pas? Parce que là, par exemple, le West France dit mettre fin à ses jours plutôt.
Alors, dans l'absolu, si on veut vraiment bien faire les choses, il faut éviter. Après, s'il y a juste suicide dans le titre, mais que le reste est bien traité, c'est pas non plus la catastrophe. L'inconvénient, c'est que ça va vraiment faire une accroche d'attention. Le mot suicide dans le titre, ça va vraiment être voilà, une personne qui n'en peut plus, qui est vraiment en grande souffrance. De suite, voilà, ça va attirer son attention, l'accrocher et donc, selon les préconisations de l'OMS, hein, parce que bien sûr, le programme Papageno, toutes ces préconisations s'appuient sur les préconisations qui sont les préconisations de l'OMS, en fait. L'OMS ne recommande pas l'utilisation du mot suicide dans le titre. Après, c'est un choix de vocabulaire. Si on a la place en print de mettre « a mis fin à ses jours », on y va. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Après, en soi, s'il y a juste ça et que tout le reste du traitement est impeccable, bon, c'est un moindre mal.
Très bien. Plus largement, au-delà de cet article. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les mauvaises pratiques, on va dire? Alors, aujourd'hui, un journaliste qui doit traiter un tel sujet, qu'est-ce qu'il doit avoir en tête?
Il y en a énormément, en fait. Hein. Il y a 10 préconisations de l'OMS. Je peux pas toutes les résumer là. Mais vraiment, faire attention au vocabulaire, éviter le sensationnalisme. Et après, alors, c'est tout le but aussi de nos interventions en rédaction. Hein. C'est compliqué de résumer là toutes les bonnes pratiques parce que elles se basent sur les idées, les préconçues qu'on a commencé à aborder. Et c'est surtout l'image du suicide qui est véhiculée dans les médias. On n'a pas eu le temps de développer trop, mais par exemple, une des idées préconçues, c'est que une tentative de suicide, c'est complètement anodin. Que voilà, c'était un appel à l'aide, c'était pas bien grave. Et du coup, on minimise la portée. On a tendance, du coup, par ce biais de représentation, à penser que, à écrire des choses comme la personne a réussi son suicide. Enfin, on en arrive à utiliser des représentations, des schémas langagiers qui font que on véhicule malgré nous, parce que même journaliste, on est baigné par les clichés de la société, on véhicule une image qui est romantisée, un peu sensationnalisée dans certaines rédactions. Et ça, c'est voilà un des points de vigilance. Il faut faire attention aussi à l'iconographie. L'iconographie peut être hyper importante. On voit encore trop souvent des modes opératoires ou des hotspots, des lieux qui ont une réputation parce que c'est des endroits où il peut y avoir des passages à l'acte facilités par la topologie du lieu. Il y a Voilà, énormément de préconisations. Après, ça dépend aussi de des rédactions, de la ligne éditoriale, de voilà, de plein de choses. Donc, c'est très compliqué de résumer toutes les préconisations, mais vraiment les principales, c'est attention au langage utilisé, formez-vous sur le suicide pour savoir de quoi on parle, pour éviter de véhiculer des clichés, attention à l'icono et évitez tous les modes opératoires. Les modes opératoires, c'est vraiment le point le plus problématique.
Tout à fait. Et j'aimerais juste rajouter le concept de cause unique au suicide.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est... Il faut s'imaginer que le lecteur qui a des idées suicidaires et qui a, comme par hasard, la même cause unique que la personne qui a dans le journal et qui est morte par suicide, l'effet Werther, il est encore plus fort, quoi. L'élément d'identification est vraiment, vraiment encore plus fort aussi. Ça met en danger les gens de faire croire qu'il n'y a qu'une seule cause.
Oui, alors ça c'est peut-être même le premier point. Merci pour ce rappel. C'est vrai que on a tendance à toujours dans la manière dont on traite à mettre en parallèle un passage à l'acte avec une rupture sentimentale, avec des conditions de travail dans une entreprise.
Je voulais juste rajouter le fait que le concept de cause unique était une erreur que nous avons un peu tous en tête, hein, la cause unique de la rupture, la cause unique des conditions de travail, c'est évidemment pas une cause unique du suicide, mais parce que sinon il y aurait qu'à traiter la cause unique et puis ce serait terminé, il y aurait plus de suicide. Mais en l'occurrence, non, il n'y a pas de cause unique. C'est éminemment un phénomène, une maladie multifactorielle. Faire croire qu'il n'y a qu'une seule cause, c'est mettre en danger les lecteurs.
Alors, oui, c'est vrai que c'est un point qui est extrêmement important, la question de la causalité unique, d'où le formez-vous hein, sur le suicide. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas avoir en tête quand on n'est pas formé sur le suicide. C'est aussi les discours qui sont véhiculés parfois par les intervenants dans les situations qu'on a à traiter en tant que journaliste. Et tout ça pour dire que c'est justement un des enjeux en tant que journaliste, c'est se former pour traiter les situations de suicide au plus juste de la réalité scientifique en fait de ce qu'est un suicide. Souvent nous ce qu'on voit sur le terrain quand on va traiter un suicide dans une entreprise, dans un établissement scolaire, dans voilà quel que soit le contexte suite à un harcèlement en ligne, bref, c'est que la partie émergée de l'iceberg.
Il y avait une question donc de Brice, alors elle ne s'affiche plus, mais de mémoire, Brice qui n'est plus en ligne d'ailleurs. Brice est en train de revenir, donc désolé si on coupe le début de la réponse, qui nous demandait justement, il y a une grande différence dans le traitement médiatique par rapport aux médias anglo-saxons et américains, notamment par rapport aux médias français. Il nous demandait, est-ce qu'on voit justement des effets plus aux États-Unis, plus dans les pays britanniques par rapport à France sur l'effet Werther justement.
Alors moi j'ai pas d'études en tête hein, en termes de mesures, mais par contre c'est vrai que les préconisations qui sont les préconisations de l'OMS sont nettement plus développées dans les pays anglo-saxons, dans la presse anglo-saxonne, qui est même parfois avec un cadre légal hein, qui encadre ces pratiques, notamment au Canada où l'insertion d'un encadré avec les numéros ressources est obligatoire légalement. Ils sont voilà.
Ah, mais justement Brice allait dans l'autre sens en fait. En disant que les médias américains sont plus trash.
Alors, plus trash pour les tabloïds sûrement, mais il y a aussi toute une part de la presse qui s'est emparée de ces préconisations-là, qui les met en œuvre et qui les applique bien plus facilement que chez nous.
Il y a l'histoire de Kurt Cobain, il me semble, dont l'effet Werther a été tout à fait minime.
Oui, aussi.
Je parlais de l'effet Werther qui était tout à fait minime lors du traitement médiatique du suicide de Kurt Cobain. Et il me semble que c'est effectivement le respect des préconisations et l'intervention de la compagne de Kurt Cobain qui a permis vraiment un traitement médiatique adapté. Et c'est en fait un exemple de l'efficacité historique des interventions adaptées en fait par les médias, je pense.
C'était une des hypothèses, ouais. En effet, l'hypothèse était que la médiatisation des témoignages de Courtney Love ait favorisé en fait l'appropriation de ce passage à l'acte-là par la famille, l'entourage et le fait de replacer le passage à l'acte dans un contexte humain, en fait, dans le contexte social, qui aurait joué un effet un peu protecteur.
Alors, Brice n'est pas connecté donc pour entendre la réponse, mais en tout cas on peut retenir donc finalement c'est plutôt les bons élèves par rapport à nous.
Oui largement avec et notamment un appui des législations autour de certaines pratiques, même si on voit que c'est en train de se développer quand même en France de plus en plus, avec notamment la rédaction de Mediapart qui depuis quelques mois maintenant met un encadré avec les numéros ressources de manière systématique. Après c'est très souvent quand même, ça reste très souvent des décisions un peu individuelles de journalistes sensibilisés sur la question qui proposent, et ça passe ou ça passe pas. Il y a peu encore de rédactions entièrement mobilisées autour de ces questions-là et des bonnes pratiques.
Très bien. Alors justement, on avait une question dans le chat sur la responsabilité des médias, sur les effets positifs ou négatifs. C'est une question qu'on m'a glissée, donc on va peut-être un petit peu s'éloigner du sujet, mais on reste dedans. On m'a posé la question, est-ce que le harcèlement médiatique peut être responsable du suicide chez certaines personnes ? La personne qui m'a glissé la question faisait notamment référence à des affaires parfois chez des adolescents, chez des adolescentes, qui sont confrontées parfois à un battage médiatique qui est tel que la personne ne peut plus sortir de chez elle, de chez lui, ne peut plus être scolarisée normalement. Est-ce que les médias ont aussi une responsabilité par rapport à la santé mentale justement des personnes qu'elles traitent et du coup qui pourraient amener au suicide ?
Alors moi il me semble que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la causalité unique, il n'y a pas de causalité unique. Par contre, il faut être clair aussi sur le fait que il y a parfois des facteurs déclenchants. Et le traitement, il me semble, hein, le docteur Leca rebondira après moi, il me semble moi qu'on a une part de responsabilité dans le sens où il ne faut pas que le traitement médiatique soit un facteur déclenchant de passage à l'acte. Sur tout un fond, un substratum qui est beaucoup plus compliqué que ça. D'où le fait qu'on puisse pas parler de causalité directement d'un traitement médiatique, mais voilà, ça peut favoriser chez des personnes déjà fragiles en fait.
Tout à fait, et souvent dans le cadre du suicide, des idées suicidaires qui sont envahissantes, on peut trouver une triade qui comprend le fait de ressentir une douleur morale, d'avoir une perception, une occlusion de l'avenir en fait, une absence de perception de l'avenir positive, une occlusion, une incapacité à anticiper l'avenir, et surtout, c'est mon point, un sentiment d'exclusion sociale. Ça peut venir effectivement des médias, des réseaux sociaux, le fait de se sentir exclu, même si on a une famille, même si on a des amis, le fait de se sentir exclu peut générer la douleur morale et si l'on est vulnérable, des idées suicidaires. Mais il faut rappeler le caractère éminemment multifactoriel du suicide.
Très bien. J'ai évidemment d'autres questions. Le chat, vous êtes toujours invité à poser vos questions. Simplement, je voulais me tourner un peu vers la salle, s'il y avait peut-être des questions dans la salle, pour vous encourager à intervenir aussi. Hein. Vous pouvez aussi intervenir si vous le souhaitez. Voilà. Ma prochaine question sur les réseaux sociaux, la pratique du trigger warning s'est beaucoup développée ces dernières années. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion, c'est souvent quand quelqu'un veut parler d'un sujet, ça peut être sur les troubles du comportement alimentaire, ça peut être sur le suicide, ça peut être sur les agressions sexuelles. En général, on a ce petit avertissement pour dire on va parler de ce sujet, pour les personnes sensibles à ce sujet, éviter peut-être de lire ce qui en découle. Selon vous, est-ce que c'est justement une pratique qui devrait se généraliser ? Est-ce que c'est de bonnes pratiques, qui devrait l'utiliser ? Quel est un peu votre regard justement sur ces trigger warnings ?
De manière tout à fait pratique, je n'ai jamais eu de consultation liée à un trigger warning.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a appuyé sur le trigger warning, je suis jamais, moi en tant que médecin hospitalier, j'ai jamais eu de consultation liée à ça. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir développer cet aspect-là pour que ça puisse permettre l'accès aux soins si c'est nécessaire.
Moi, il me semble que de toute façon, ça peut pas être nocif, donc autant les utiliser après. Est-ce qu'il y a un intérêt à les généraliser tant que j'ai pas vu d'études sur le fait que ce soit bénéfique et que voilà. Bon, je ne sais pas, je m'avancerai pas jusque-là, mais quoi qu'il en soit, si ça peut permettre à des gens qui ont certaines sensibilités sur certains sujets d'éviter des articles qui les mettraient à mal, voilà, hein, autant prévenir.
Très bien. Je me posais également la question, quel est l'impact sur la santé mentale des journalistes qui écrivent sur ces sujets, qui écrivent régulièrement sur le suicide, sur des morts, quel est un peu le résultat chez eux au final ?
Alors pareil, pas d'études. Enfin, moi, j'ai pas vu passer d'études là-dessus. Après, ça me donne envie de renvoyer vers la conférence qu'on a eue l'autre, enfin il y a deux mois, mmh. Sur le burn-out potentiel et notamment le point qu'on avait abordé il y a deux mois sur comment faire la différence entre un burn-out, un état d'altération de l'humeur et éventuellement un état de stress post-traumatique. Je pense notamment aux faits diversiers hein, qui vont traiter du suicide en étant très près du terrain, en allant rencontrer les forces de l'ordre, des fois en étant sur des lieux de passage à l'acte. Voilà, moi je dirais attention à l'état de stress post-traumatique chez les journalistes et je pense qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet de toute façon lors d'une prochaine conférence.
Oui, tout à fait. C'est assez connu les stress post-traumatiques qu'on appelle vicariants, c'est-à-dire on n'a pas assisté à la scène, mais le fait qu'on nous raconte la scène peut nous traumatiser. Et c'est un des risques des psychiatres et psychothérapeutes qui écoutent les gens raconter des choses traumatisantes. Et pourquoi pas aussi les journalistes qui vont auprès de ces informations difficiles.
Dans le cadre du programme Papageno, vous intervenez aussi auprès d'étudiants en journalisme, notamment à l'IJBA, l'école de journalisme de Bordeaux. Comment ça se passe? Quels sont un peu les retours? Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants sont déjà sensibilisés à ces thématiques ou alors ils découvrent tout un nouveau monde, de nouvelles pratiques? Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait.
Ça fait quelques années que je le fais, 5 ans à l'IJBA, grâce à Marie-Christine Lipani qui nous accueille chaleureusement tous les ans. Et en fait, j'ai l'impression que d'année en année, ça change pas trop. Peut-être qu'elle me contredirait, je ne sais plus. Mais ce que je sais aussi, c'est que c'est extrêmement formateur. Il y a un avant et un après. Et il y a beaucoup de questions éthiques. C'est très riche, en fait. C'est toute une journée qui est dédiée à cela. Et je pense que c'est important vraiment dans leur formation. Même si c'est pas beaucoup, c'est juste une journée, mais quand même.
Alors moi, j'ai assisté qu'à celle de l'année dernière pour la première fois, hein, puisque j'ai rejoint l'équipe plus récemment. Et en effet, c'est les témoignages qui ont été remontés des étudiants en journalisme à Marie-Christine. Il y a un avant et un après Papageno et ça vient modifier des représentation, pas seulement autour du suicide, mais autour de la santé mentale en général. Et ce qui est intéressant, moi, il me semble, dans ces interventions, c'est qu'on met en contact des étudiants en journalisme avec des internes en psychiatrie qui se déplacent, qui viennent rencontrer les étudiants et on les met en situation professionnelle de rédiger un article avec la possibilité, s'ils le souhaitent, de faire appel à un expert de la santé mentale pour voir déjà s'ils vont le solliciter, comment est-ce qu'ils se saisissent de leurs paroles et comment est-ce que, dans la pratique concrète, ils peuvent être amenés à parler de ce sujet-là et à décrocher leur téléphone ou pas pour appeler un psychiatre, pour savoir, pour en parler, pour délivrer une information plus qualitative. Et là-dessus, je trouve ça vraiment très intéressant de créer ce réseau de pairs de la même tranche d'âge, plus ou moins, et de voir comment est-ce que ça vient solliciter des, peut-être, j'espère, nouveaux réflexes professionnels pour l'avenir.
Une question un petit peu en aparté par rapport au thème vraiment médiatique. Quels sont, pour parler de la prévention du suicide, les signaux d'alerte chez soi et chez les autres? À partir de quel moment il faut s'inquiéter ou demander de l'aide?
Alors, en pratique, le fait d'avoir des idées suicidaires, c'est assez banal. C'est 2 millions de Français tous les ans qui en ont. Et donc, faut pas non plus être dans la plus profonde détresse quand on a des idées suicidaires. En revanche, ce que je déconseille, c'est de laisser monter la souffrance, d'avoir de plus en plus d'idées suicidaires et finalement de s'enferrer dans une mécanique pour laquelle on pourrait perdre le contrôle. Moi, je conseille éventuellement d'en parler à son médecin traitant, qui est le premier soignant de proximité, un psychologue, et puis tout simplement de s'entourer des amis si c'est possible, de la famille. Voilà, rester en contact avec les autres. Mais tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux idées suicidaires. Il y en a qui, malgré tous les facteurs de stress et toutes les merdes de la vie, n'auront jamais une seule idée suicidaire, et d'autres pour qui ça va être un peu plus compliqué. Et donc on n'est pas tous égaux face à cette vulnérabilité-là. Et effectivement, si jamais vous avez fait une tentative de suicide, vous n'avez parlé à personne, ben moi je vous invite à plutôt en parler, aller voir un médecin, un psychiatre. Et il y a un système de prise en charge des gens qui ont fait des tentatives de suicide grâce à un dispositif de l'hôpital Charles Perrin. C'est quelque chose qui existe aussi sur le territoire en général. Alors, je ne sais plus quelle était la question exactement, mais...
À partir de
comment,
quand
comment prévenir, à partir de, quels sont les signaux, les signaux d'alerte.
Mais c'est la souffrance en général. Il y en a qui vont se déprimer, il y en a qui vont devenir de plus en plus anxieux, il y en a qui vont avoir des idées suicidaires, d'autres qui vont avoir tout à la fois.
Pour l'entourage, le changement de comportement brutal aussi.
Ah oui, et pour l'entourage, tout à fait.
Ouais.
Une lettre, un testament, il y a des classiques comme ça.
Ou même quelqu'un qui était très triste pendant très longtemps et qui d'un seul coup apparaît particulièrement joyeux, voilà, avec une amélioration vraiment très brutale, subite. Ouais, là, attention, warning.
Ça nous fait peur en psychiatrie, ça. Les gens vont tout d'un coup bien mieux et sans raison, c'est très bizarre. Ça nous inquiète.
Très bien. Donc, chez un proche, encore une fois, on a parlé donc ce changement d'humeur subit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, justement, pour quelqu'un qui, justement, se poserait des questions par rapport à un proche? Il y a d'autres signaux qui peuvent alerter?
Il faut poser la question.
Ah oui. Et,
voilà. Je pense que c'est le plus simple pour savoir, c'est de poser la question. Comment tu te sens? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu as envie de mettre fin à tes jours? Poser la question. Je pense que il faut briser ce tabou, déstigmatiser ça et montrer aussi à ses proches que que pour nous, c'est pas grave, qu'il a pas à culpabiliser, parce que souvent, les personnes qui ont des idées suicidaires, on culpabilise énormément, ont peur d'inquiéter l'entourage, n'ont pas envie de les inquiéter. Donc, en tant qu'entourage, montrer que c'est pas grave, même si tu as des idées suicidaires, je suis là pour t'écouter et on peut ensemble essayer de trouver une solution.
Et on ne peut pas générer des idées suicidaires chez l'autre en posant la question, c'est impossible. En revanche, on peut soulager la personne qui en a et avoir un bon fou rire si c'est pas le cas.
On a plusieurs questions dans le chat. Quels sont les réflexes à adopter si nous connaissons une personne dans cette situation? Comment l'accompagner? Bon, finalement, on a un peu répondu à cette question. Ensuite, vous parliez d'avoir un réseau avec des psychiatres qui demandent des informations et des relectures éventuellement, etc. Un psychiatre TCC, un psychiatre psychanalyste ou du courant humaniste auront-ils la même vision? Faut-il contacter des psychiatres de plusieurs courants absolument?
Non, pas absolument. Enfin, chaque pot a son couvercle. Hein. Il y en a qui vont être très bien avec des psychanalystes, d'autres très bien avec des TCCistes, comme on dit. Il y a plein d'écoles. Et si vous n'avez pas trouvé le psychiatre qu'il vous faut, changez de psychiatre.
Et en ce qui concerne le traitement médiatique, appeler un expert pour pouvoir traiter d'un événement qui s'est passé, je pense que le plus simple, c'est de nous contacter, nous, au sein de Papageno, je laisserai mes coordonnées tout à l'heure, qu'on vous mette en relation avec un expert médiatraîné, un expert qui est déjà sensibilisé à la question. Alors déjà, un expert, un psychiatre sensibilisé spécifiquement au suicide et sensibilisé à la question du traitement médiatique, parce que, un, ça vous fera gagner du temps. Il saura directement de quoi vous avez besoin comme info. Il pourra vous donner les derniers chiffres actualisés, etc. Et en plus, vous saurez qu'il répondra avec plaisir. Vous n'aurez pas à décrocher votre téléphone 12 fois pour qu'on vous raccroche au nez en vous disant que voilà, on ne parle pas de cette situation, etc., etc. Nous, on est là vraiment pour faciliter le lien aussi entre les experts en suicidologie, médias traînés et les journalistes.
Donc, pour se rapprocher de vous, on peut aller sur le site de Papageno.
Sur le site de Papageno et on mettra en visio sur le Zoom un visuel avec mes coordonnées.
Très bien.
Je voulais juste donner un petit commentaire par rapport à votre introduction. Vous avez dit que c'était la quatrième cause de mortalité chez les 15-29 ans, il me semble.
Tout à fait, selon l'OMS.
Et en fait, en France, c'est pas tout à fait le cas. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 25-34 ans. Les 15-24 ans et la première cause chez les 25-34 ans. Donc, en fait, c'est énorme. Et sachant que la deuxième, ou la première, selon le cas, c'est les accidents de la route.
En intervention, en rédaction, moi j'aime bien poser la question, surtout si c'est pas des journalistes santé, puisque souvent les journalistes santé sont quand même les mieux formés. C'est selon vous, qu'est-ce qui tue le plus en France, les accidents de la route ou le suicide, toutes tranches d'âge confondues? Et très très souvent, les journalistes se trompent dans la réponse. Le suicide tue plus que les accidents de la route en France chaque année, toutes tranches d'âge confondues. Et ça, on l'a pas forcément en tête. Notamment pour les journalistes qui pensent qu'ils ne traitent jamais. Je me suis amusée à faire une petite comptabilité l'année dernière du nombre d'articles qui avaient été publiés sur le suicide. Vraiment basique. Combien il y a d'itérations du mot suicide dans les moteurs de recherche de je crois que j'avais pris de mémoire les 5 plus grands titres de PQR-PQN. Et on était à plusieurs dizaines de milliers d'articles. Voilà. Alors que, en tant que journaliste, on a l'impression qu'on ne traite pas ce sujet-là. Mais pourtant, il y a tous les ans une dizaine de milliers d'articles qui sont publiés avec un hashtag, enfin, une indexation suicide dans les moteurs de recherche des, voilà. Donc, voilà, plein de choses à faire, à déconstruire en termes de représentation, même de notre pratique, de la manière dont ce sujet-là intervient dans notre pratique pro.
Alors justement, un petit peu avant la conférence, un proche en off m'avait dit, on avait pu évoquer lors de la dernière conférence, donc il y a 2 mois sur le burn-out, on s'était posé la question, est-ce que le burn-out était devenu un sujet à la mode, un sujet bankable, comme on dit. On a l'impression que le suicide, ça attire moins, qu'il y a ce côté, on parle quand même beaucoup plus facilement du burn-out que du suicide dans la presse actuellement, on a cette impression en tout cas. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il y a un effet de mode ou pas, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors j'ai pas fait le comparatif, mais il me semble que on parle du burn-out pour le burn-out. On parle du suicide pour autre chose. On parle du suicide pour les conditions de travail en entreprise. On parle du suicide pour l'isolement des octogénaires. On parle du suicide pour le cyberharcèlement. On parle du suicide pour, voilà, pour les conditions de travail des policiers, les conditions en détention, le malaise des soignants, etc. Il me semble que c'est vraiment là qu'il y a un décalage. On parle du burn-out pour le burn-out. On parle du suicide pour autre chose, souvent. Et souvent, ce qu'on appelait tout à l'heure la causalité unique, et c'est là qu'on se plante complètement si on essaye de faire notre travail de manière juste en termes de contenu d'information.
Et peut-être en complément, le côté un peu, pas sexy, mais disons que le burn-out, la cause, c'est le travail. C'est une cause externe. C'est pas soi, c'est pas un truc complexe, c'est assez facile de se représenter les choses et donc c'est facile de le manipuler, d'en parler. Et si on en a été affecté, on peut très bien le dire et on sait que c'est pas gênant. En psychiatrie, c'est plus compliqué. On a du mal d'ailleurs à penser que le burn-out soit une maladie psychiatrique. Pourtant, si. Je pense que les maladies psychiatriques sont pas très sexy parce que c'est compliqué, ça touche à soi, à l'intime, et donc c'est difficile d'en parler, c'est difficile de communiquer, et il y a tous les relents de stigmatisation qui viennent tout de suite en fait sur la santé mentale. Et en parallèle de ça, plus une société est développée, et mieux elle traite ses patients qui souffrent de troubles mentaux. Donc moi je pense que c'est bien d'en parler.
Une nouvelle question. Dans le chat, le suicide en France touche-t-il plus les hommes ou les femmes?
Le suicide. C'est plutôt les hommes. Les tentatives de suicide, c'est plutôt les femmes. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire?
Il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses autour du fait que le suicide touche plus les décès par suicide touchent plus les hommes à cause d'un recours à des moyens létaux plus violents, plus radicaux, tandis que les femmes choisiraient plus des méthodes un peu moins létales. Voilà, plus des médicaments, etc. Voilà.
Et c'est ça qui est difficile, c'est que les facteurs de risque de tentative de suicide sont par exemple le fait d'être une femme jeune, et les facteurs de risque de décéder de suicide, donc il faut forcément faire une tentative au moins de suicide, c'est d'être un homme âgé. Donc vous voyez la complexité du truc, les facteurs de risque sont pas les mêmes, alors qu'il faut forcément, c'est une étape la tentative de suicide par rapport au suicide.
Oui, et puis les hommes âgés, il y a aussi la proximité, enfin c'est toujours la question de la proximité d'un mode opératoire aussi, d'où l'importance d'être vigilant dans nos pratiques. Un suicide par arme à feu chez un chasseur, c'est facile. Voilà, il a le mode opératoire sous la main. Donc si nous on titre ça en gros, évidemment ça rendra, en termes de réflexion, en termes de conscientisation, le mode opératoire encore plus accessible à quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité. Je pense notamment aux agriculteurs, etc.
Oui, tout à fait.
Je me permets de revenir un petit peu au début, quand on parlait des clichés, des idées reçues. Une autre idée reçue qui a été relevée par le site Stop Suicide, c'était « le suicide est un acte lâche » ou « le suicide est un acte courageux ». Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Souvent, on dit soit il faut vraiment être lâche pour passer à l'acte, ou moi, j'aurais pas le courage. Quel est votre regard un petit peu dessus?
Je pense que c'est malheureusement pas indépendant de la volonté, mais c'est une maladie, quoi. C'est pas courageux d'avoir un cancer, c'est pas courageux d'avoir un AVC. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir, en fait. Il y en a qui n'auront absolument aucune idée suicidaire malgré tous les facteurs de risque qu'ils auront, et d'autres qui en seront affectés, et c'est comme ça. Et rien à voir avec le courage, rien à voir avec le mental, la force, ou la faiblesse, que sais-je. C'est plus compliqué.
En termes de traitement médiatique, moi, il me semble qu'il y a des situations qui peuvent favoriser des traitements médiatiques qui reproduisent ce genre de représentation-là. C'est la romantisation. Moi, je pense à un article qu'on utilise très fréquemment en intervention rédaction autour de ces deux octogénaires qui ont décidé de partir ensemble, qui ont choisi de partir ensemble. Là, on est vraiment dans l'acte héroïque, romantique, sensationnaliste, qui, bon, va faire cliquer et évidemment va générer du trafic, mais qui est complètement à côté de la plaque en termes de réalité. Et d'un autre côté, il y a éventuellement, ça peut arriver, la question de la colère des familles, de l'incompréhension, des phénomènes de deuil, de qu'est-ce qui se passe quand on perd un proche par suicide. Et c'est important aussi d'avoir conscience de toutes ces étapes par lesquelles on passe et de la légitimité d'une famille qui peut trouver que c'était lâche de se suicider parce qu'elle est dans sa colère de famille endeuillée, qui elle aussi a besoin d'être accompagnée et de mettre du sens sur une situation qui souvent n'en a pas, et à nous en tant que journalistes d'être vigilants sur la manière dont on va reproduire ce genre de discours sans prendre le recul nécessaire pour le traiter. Ça, c'est je pense qu'il y a un petit peu des phénomènes comme ça qui peuvent se jouer dans la manière dont on travaille et qui peuvent induire ce genre de reproduction d'idées reçues en fait.
Alors justement, on a assez peu évoqué le sujet. Au final, qu'en est-il des proches ? Parce que quand on fait un sujet, en général, que ce soit un portrait d'ailleurs, même en dehors du suicide, on a tendance à aller vers les proches. Parfois, sur ces affaires, les proches veulent parler, parce qu'ils ont parfois un besoin de communiquer dessus, ou alors au contraire, justement, veulent éviter un peu tout ça. Quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques ? Comment appréhender un petit peu tout ça ? Est-ce qu'on doit forcément laisser parler les proches, quels que soient leurs propos, ou non ?
C'est très compliqué, puisque ça dépendrait de quel proche, quelle situation, quel discours. Les entendre s'ils ont envie de parler, évidemment. Moi, il me semble que c'est aussi notre rôle en tant que journaliste d'accueillir la parole des familles, tout en replaçant ça dans la grille théorique de ce que c'est que être endeuillé par suicide, vivre un deuil et le mettre en perspective. Je pense que c'est vraiment ça qui est important en fait. C'est de recueillir cette parole-là qui va permettre au lecteur aussi de sentir que le passage à l'acte suicidaire, c'est pas juste un événement individuel qui touche une seule personne. C'est un événement qui vient avoir un impact sur tout un écosystème humain. Après, attention à manier avec précaution à manier avec précaution. Quelles précautions ? C'est évidemment, si on sent les personnes en grande souffrance, les renvoyer vers les professionnels de santé, ne pas hésiter à s'appuyer même parfois sur les professionnels de santé qui vont accompagner les proches pour savoir qu'est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller, et toujours être au clair sur qu'est-ce qu'on veut demander aux familles. Quel est l'intérêt de recueillir leurs paroles en tant que journaliste ? C'est pour en dire quoi ? Si c'est pour continuer à verser dans le sensationnalisme, non, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour donner une dimension un peu plus humaine sur qu'est-ce que les proches ont fait en suivant pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, qu'il n'y ait pas un effet de contagion auprès de, par exemple, je pense à un suicide dans un établissement scolaire, par exemple, là, ça peut être intéressant. Mais vraiment à manier avec précaution.
J'ai une nouvelle question sur le chat. En tant que journaliste, faut-il traiter différemment la question du suicide assisté ? Y a-t-il des règles en plus à respecter, par exemple ? La question du suicide assisté.
Suicide assisté, nous, c'est chez Papageno, c'est une expression qu'on n'aime pas. Un suicide assisté n'est pas un suicide. Accoler deux termes qui accoler un terme qui est le suicide à une situation qui ne relève pas du suicide.
Assisté par qui ? Si c'est par un médecin, c'est par rapport à une maladie incurable, on parle plutôt d'euthanasie et c'est pas en France. Et si c'est assisté par soi-même, ça s'appelle un suicide. Si c'est assisté par un proche, c'est un meurtre. Je pense que ces termes-là, effectivement, vont pas ensemble.
Et la réalité psychique de ce qui se passe quand on est dans une situation de choix de fin de vie, où on décide d'avoir recours à une fin de vie médicalement assistée, éventuellement, c'est pas un suicide en fait. On sait que on est dans un état de santé qui hypothèque notre durée de vie. On est dans une situation où physiologiquement on n'a plus d'espoir de survie à moyen long terme, et on décide soi-même de raccourcir ça pour ne pas se voir dans un état d'échéance physique, etc., etc. Et on n'est pas dans la situation d'accumulation de souffrances morales tout au long de la vie, d'hypothèques au fur et à mesure de toutes les options possibles qui font qu'on se retrouve à un moment donné dans une souffrance morale qui fait que on ne perçoit plus d'autre solution que de mettre fin à ses jours. Là, on est dans deux situations qui sont très différentes. Donc nous, après c'est compliqué à résumer en si peu de temps, mais nous, l'expression suicide assisté pour nous paraît source de confusion, clairement.
Parce que le suicide vient en réponse, en général, à une souffrance, effectivement, des idées suicidaires, un enfermement, des biais cognitifs, une souffrance, en général, psychiatrique par ailleurs, comorbide, importante. Et finalement, il suffit de traiter les causes pour que le problème disparaisse, en fait. Et on estime, en tout cas, il y a des études qui vont en ce sens, qu'on peut sauver au moins la moitié des gens juste en traitant leur maladie psychiatrique. De 47 à 74%. Donc c'est énorme, en fait.
Alors que dans la question du suicide assisté, on sait que, enfin voilà, il n'y a pas d'issue. C'est juste la situation de fin de vie et pouvoir choisir sa fin de vie. Ce qui n'est pas la même chose, vraiment.
Mais donc, au-delà du terme, pour répondre précisément à la question de Sévan, qui demande donc comment le traiter, donc sur la question si on parle plutôt d'euthanasie, quelle serait la manière appropriée, on va dire, de le traiter, puisque vous avez pu parler de meurtre s'il s'agit d'un proche. C'est vrai que, est-ce qu'il faut traiter ça comme un fait divers standard, ou est-ce qu'il y a des règles à respecter?
Je pense qu'il faut aborder la complexité de ce sujet-là. Je sais pas trop exactement, mais ça me semble logique d'essayer de comprendre tous les détails, les déterminants, et de faire entrer ça dans une grande logique à la fois individuelle, une vie familiale, une vie sociale. Je ne sais pas, ça peut être compliqué, en fait. Ça peut être intéressant de le décrire.
Moi, il me semble que, outre, c'est pour ça que je bloquais sur vraiment la question de l'expression suicide assisté. Moi, il me semble que, outre cette question-là, c'est un sujet santé comme n'importe quel autre sujet santé qu'il faut embrasser dans sa dynamique biopsychosociale, mais comme toutes les autres questions de santé. Après, il n'y a pas le phénomène d'identification et de risque de reproduction, imitation qu'on retrouve dans le vrai suicide, dans l'euthanasie. Et c'est justement là qu'il y a une vraie différence et où notre rôle en tant que journaliste est complètement différent. On peut parler d'euthanasie autant qu'on veut. Ça ne concerne n'aura que les gens qui se retrouvent dans cette situation-là de possibilité ou non de choix de leur fin de vie. Alors que dans le suicide, on n'est pas là-dedans.
Justement, Sévan nous demande donc qu'il n'y a pas d'effet Werther dans ce cas-là.
Non. Enfin, moi, il me semble pas. En tout cas, ça n'a pas été mesuré, mais je vois mal comment est-ce qu'il pourrait y en avoir.
Est-ce qu'il faut quand même mettre des numéros utiles ou des liens dans ce genre de cas, et lesquels?
Dans le
cas de l'euthanasie ou...
Non, puisque il me semble que ça relève pas du suicide. Par contre, ça peut être intéressant de mettre en lien vers les équipes de soins palliatifs, d'accompagnement à la fin de vie, qui elles sont formées sur ces questions-là. Là, ça peut avoir du sens. Si vous êtes en situation de fin de vie, que vous avez des questions, les associations d'écoute et les services de soins palliatifs.
Et un psychiatre aussi.
Et le psychiatre. Bon, il y en a souvent dans les équipes de soins palliatifs.
Très bien, là on n'a pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions dans la salle. Moi aussi, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que vous avez peut-être autre chose à rajouter avant qu'on conclue, qu'on rappelle le programme Papageno, le numéro?
Non, je pense qu'on a fait un bon petit aperçu. Les seuls points à rajouter, c'est donc n'hésitez pas, vous allez avoir mes coordonnées qui s'affichent. On a besoin, alors c'est un sujet qui reste tabou dans les rédactions, qui reste compliqué à aborder. Je vous le disais un petit peu plus tôt, la représentation quand même chez beaucoup de confrères, consoeurs, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, qu'on ne traite pas, alors que dans la réalité, il y a quand même de grandes chances qu'on y soit toutes et tous confrontés dans notre carrière. Nous, on intervient gratuitement dans les rédactions On est financé par le ministère de la Santé, hein, au titre des actions de prévention du risque suicidaire. Si vous pensez que ça peut intéresser vos rédactions, les endroits où vous travaillez, les associations de journalistes, clubs de la presse, le club de la presse qui nous accueille aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on se déplace, c'est une heure d'intervention pour qu'on puisse vraiment travailler autour des pratiques professionnelles, de comment est-ce que ça peut impacter le travail en rédaction directement, éventuellement le travail autour des encadrés avec les numéros ressources, comment est-ce que on travaille une icono, comment est-ce qu'on travaille cette hiérarchisation de l'information, etc. Moi, je suis à disposition, il n'y a pas de souci, et ce sera avec grand plaisir que je viendrai discuter avec les journalistes et voilà.
Voilà, donc vous avez les informations de contact qui s'affichent en écran partagé. Je rappelle aussi sur le site de Papageno, il y a de nombreuses ressources en fonction du profil. Donc, si vous êtes auteur, autrice, journaliste, en fonction de vos différents postes, plusieurs ressources sont disponibles. Je le rappelle aussi, en France, le 3114 est le numéro national de prévention du suicide. C'est un service gratuit, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des professionnels de santé formés sur ces questions. Il est temps pour moi de conclure, à part si quelqu'un veut rajouter quelque chose. En tout
juste
cas,
un merci quand même pour cette initiative et cette intervention, parce que je trouve que c'est un sujet important et je voulais vous remercier pour cet effort.
Eh bien, merci à vous pour votre présence. Vous retrouverez d'autres conférences dans le cadre des rencontres de la santé mentale du Club de la Presse. Donc, on le rappelle, tous les deux mois, une conférence. D'ici un mois, on n'a pas encore de date fixée. On va aussi essayer de refaire un groupe de parole avec l'association Elburn, qui intervient donc sur les questions de burn-out, pour des groupes de parole limités à 6 personnes, il me semble. Donc si vous êtes intéressé par cet événement, n'hésitez pas à suivre évidemment le Club de la Presse sur ses réseaux ou sur son site, on va afficher toutes les informations. Encore une fois, ce sont des groupes de parole gratuits avec un professionnel de santé présent, donc si vous ressentez le besoin de parler ou d'évoquer certaines problématiques liées au burn-out, n'hésitez pas à venir vers nous. Et merci encore d'avoir assisté à cette rencontre.